pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour tout le monde, bonjour Violette.
Bonjour Imran, bonjour à toutes et à tous.
Bienvenue dans C'est pas faux, l'émission de vulgarisation scientifique de Radio Phoenix.
Dans notre émission du jour, nous allons parler d'astronomie et d'astrophysique. Depuis quand observe-t-on le ciel? Quels outils sont utilisés? Comment les chercheurs effectuent-ils leurs calculs? Et quel est le rôle des passionnés dans la recherche?
Pour aborder ce thème, nous recevons en studio Grégory Lehaut, chargé de recherche au groupe Astroparticules et Multimessagers du LPC, le laboratoire de physique corpusculaire de Caen.
Philippe Labbé, président du club Asnora, l'association normande d'astronomie.
Et Gilbert Martel, membre de l'association Asnora.
Mais tout de suite, les infos sciences de la semaine.
L'actualité scientifique cette semaine passe par des inondations records en Afrique du Sud. La pluie a cessé depuis dimanche, mais depuis plusieurs jours, ce sont des pluies de l'ordre de celles normalement tropicales qui se sont abattues sur la côte Est. La région de Durban, une ville portuaire de 3,5 millions d'habitants au bord de l'océan Indien, a été particulièrement touchée. Les pluies ont été donc massives et ont provoqué des crues et des glissements de terrain meurtriers. Ces intempéries touchant des quartiers défavorisés, plusieurs familles ont été ensevelies dans les coulées de boue. Au moins deux secouristes ont péri en tentant de repêcher des corps. Des routes ont été emportées, d'autres sont impraticables après que la rivière en crue y ait laissé de la boue et des débris. Dans le port, les conteneurs se sont effondrés, l'approvisionnement en eau est perturbé et l'électricité est coupée. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui a reporté un voyage à l'étranger, s'est rendu sur le terrain pour évaluer l'étendue des dégâts et épauler les personnes endeuillées. Des bons alimentaires, des uniformes scolaires et des couvertures continuent à être distribués. Plus de 250 écoles ont été touchées, près de 4000 maisons rasées, plus de 13500 endommagées. De nombreux hôpitaux fortement sollicités pour des blessés ont été dégradés. Selon les prévisions météorologiques, l'Afrique du Sud devrait recevoir de fortes pluies et des vents violents dans les prochains jours, entraînant à nouveau un risque d'inondation.
Des animaux pour surveiller l'environnement. C'est le pari lancé par des scientifiques à travers le projet Icarus, International Cooperation for Animal Research Using Space, un programme de traçage des animaux sauvages par satellite depuis l'ISS. 100 000 animaux sentinelles de 500 espèces différentes, telles que des oiseaux et des mammifères, vont être testés en leur insérant un dispositif de micro-traçage de 3 grammes sur le dos. Cette technologie numérique est capable de relayer tout un tas d'informations comme la position de l'animal ou son comportement. Ces données sont entièrement fournies en temps réel par des animaux jusqu'à un capteur rattaché à la Station Spatiale Internationale. Une fois les données reçues, les scientifiques pourront surveiller le climat et l'écosystème, tout en prévoyant des catastrophes telles que des séismes ou en repérant des activités illégales contre l'environnement, comme la déforestation ou en analysant les flux migratoires de ces animaux. Le 1er avril 2022, une étude intitulée « Observation biologique de la Terre avec des capteurs animaux » a été publiée dans la revue scientifique « Trends in Ecology and Evolution ». Cette dernière reprend le projet Icarus en détaillant ce à quoi pourrait ressembler cet internet alternatif fait d'animaux sentinelles. Si les comportements animaliers font l'objet de nombreuses études, il est encore compliqué d'établir des liens entre leurs actions et l'approche de catastrophes naturelles. Cette recherche s'inscrit néanmoins dans une nouvelle ère de découvertes, pour reprendre les mots de Walter Jets, professeur de biologie évolutive à l'université de Yale et rattaché au projet Icarus. Toutes ces découvertes permises par des capteurs déboucheront donc sur de nouvelles interrogations scientifiques.
À l'occasion des 110 ans du naufrage du Titanic, les documentalistes de Météo France ont revisité les données atmosphériques et océaniques de l'époque. Un phénomène optique pourrait expliquer le drame au cours duquel 1500 passagers ont péri. Selon les commissions d'enquête britanniques et américaines, trois causes principales expliquent ce naufrage. Une trop grande vitesse malgré la présence signalée d'icebergs, une veille défaillante à la passerelle du navire et une désorganisation de l'évacuation des passagers. Certains enquêteurs ont aussi évoqué des défauts de conception du navire et un feu qui aurait fragilisé la coque du navire. La météorologie de la nuit du drame a été aussi largement étudiée. Tous les experts s'accordent sur l'hiver anormalement doux de 1912. Le brouillard a été un temps envisagé comme cause d'une collision inévitable, en plus de la présence d'icebergs repoussés dans ces eaux à cause de températures beaucoup trop clémentes. Mais d'après Xavier Popineau, auteur du dossier réalisé par Météo France, les mirages pourraient expliquer que la vigie n'ait pas vu l'iceberg situé 500 mètres devant lui. En région polaire, la surface de la mer est très froide, mais l'air au-dessus plus chaud. Cela génère un mirage supérieur, c'est-à-dire que l'on voit l'objet au-dessus de l'horizon. Ces phénomènes optiques, appelés Fata Morgana et Fata Bromosa, sont typiques des régions polaires. Ce n'est pas une brume, ce n'est pas le brouillard, c'est un mirage de brume, a ajouté Xavier Popineau, un mirage qui aurait rendu invisible l'iceberg caché derrière.
Mercredi 13 avril, l'astronaute français Thomas Pesquet s'est à nouveau envolé, mais cette fois-ci non pas à destination de la Station Spatiale Internationale, mais à destination du continent africain. Ingénieur en aéronautique, astronaute et pilote de ligne, Thomas Pesquet est aussi parrain de l'ONG Aviation Sans Frontières, une association qui mobilise son expertise, ses avions et le réseau aérien pour acheminer des vivres, médicaments et effectuer des évacuations sanitaires auprès de pays dans le besoin. Le décollage de l'appareil, un Cessna Grand Caravane, s'est faite à l'aéroport du Bourget en Île-de-France, avec pour but d'acheminer un convoyage à Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Dans certaines zones, seule l'aviation dite de brousse permet d'aider les populations dans le besoin. Gérard Felzer, président d'Aviation Sans Frontières, explique que la principale fonction de cet avion sera de transporter des médecins ou des infirmières dans les régions où seul un avion permet de se rendre, car les routes sont inaccessibles ou trop dangereuses. Même s'il manque encore quelques heures de pilotage à Thomas Pesquet pour pouvoir atterrir dans la brousse, ce dernier a déclaré avoir hâte de partir à l'aventure et de mettre l'aérien au service de l'humanitaire.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Qui ne s'est jamais pris de passion pour le ciel ? Avec ses petites lumières qui brillent à la nuit tombée et ses phénomènes de lune rouge ou encore d'éclipse, le ciel attise les questions des petits comme des grands. Et pour répondre à ces questions, il y a deux disciplines phares, l'astronomie et l'astrophysique. Ce sont de formidables machines à remonter le temps. Plus les outils sont modernes, plus les technologies sont perfectionnées et mieux on arrive à dénicher les premiers vestiges de l'univers.
Pour parler de ce sujet, nous recevons Grégory Lehaut. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de recherche au groupe Astroparticules et Multimessagers du LPC de Caen.
Philippe Labbé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président du club Asnora.
Oui.
Et Gilbert Martel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'association Asnora. Alors, comme le disait Imran en introduction, le ciel, c'est un espace qui semble sans limite et qui a toujours attiré notre regard. Mais Philippe Labbé, depuis quand est-ce que l'on regarde le ciel ?
Oh, je crois qu'on peut dire que depuis la nuit des temps, pratiquement. Je pense que les hommes des cavernes, si vous voulez, étaient tout indiqués pour regarder le ciel et faire déjà des repères. Probablement, ils évaluaient la position du soleil qui se levait dans le ciel et l'endroit où il se couchait. Et on en a des témoignages, par exemple, si on se base sur les temples qui existent à Stonehenge, par exemple, en Angleterre, vous avez là des alignements particuliers de pierres, de très grandes pierres, qui montrent qu'il y avait déjà des repères astronomiques très importants. Il n'y a pas que là, bien entendu, il y a beaucoup de civilisations qui ont montré la même chose.
Alors, j'ai parlé de deux disciplines dans mon introduction, c'était l'astronomie et l'astrophysique. Grégory Lehaut, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre ces deux disciplines, tout le monde ne la saisit pas forcément.
Oui, donc la première, l'astronomie, va consister en fait à l'observation du ciel et d'essayer de relever la position et l'évolution des objets dans ce ciel, alors que l'astrophysique va s'intéresser à expliquer le fonctionnement de ces différents objets. Donc par exemple, le fonctionnement d'une étoile va faire partie de l'astrophysique, alors que sa position dans le ciel va faire partie de l'astronomie. Donc c'est comme ça qu'on peut séparer les deux sciences. Une qui va plutôt être de l'observation et l'autre qui va être l'application des lois physiques qui s'appliquent sur Terre aux objets du cosmos.
Et Gilbert Martel, avec quels outils est-ce que l'on regarde le ciel ?
Le premier outil est celui qui a été utilisé par nos ancêtres. Comme le disait Philippe, c'est l'œil. Et c'est très important déjà de pouvoir observer le ciel. Malheureusement, on peut le dire tout de suite, aujourd'hui perturbé par ce qu'on appelle la pollution lumineuse. Et dans nos villes, par exemple, il est difficile souvent d'observer le ciel. Il faut essayer d'imaginer. Alors, pour trouver un ciel vraiment pur, limpide, aller dans le désert ou en haute montagne, c'est là que sont installés d'ailleurs les grands observatoires aujourd'hui dans les Andes, au Chili, par exemple, pour le VLT, le Very Large Telescope européen, et voilà. Et puis d'autres instruments sont les lunettes et les télescopes, donc des instruments optiques qui sont apparus relativement récemment. C'est-à-dire au début du XVIIe siècle, c'est Galilée pour la lunette et c'est Newton pour le télescope, c'est le XVIIe siècle. Donc c'est une observation, pendant très longtemps, l'observation s'est faite à l'œil nu. Et puis plus récemment, donc avec des instruments de plus en plus perfectionnés, à partir du XIXe siècle, on a des instruments qui permettent de capter la lumière, de la décomposer, comme les spectroscopes, et de l'analyser, de comprendre, donc ce que disait Grégory tout à l'heure, de faire de l'astrophysique, c'est-à-dire de savoir quelle est la composition, par exemple, d'une étoile, quel gaz compose une étoile, quelle est sa température, etc.
Justement, Grégory Lehaut, quand on est chercheur et que l'on regarde dans le ciel, qu'est-ce qu'on le regarde ?
Alors déjà, la première chose à comprendre quand on regarde le ciel, c'est qu'on va capter un médiateur, en fait. Il y a quelque chose qui va être émis par un objet dans le ciel et qui va arriver jusqu'à la surface de la Terre. Donc, principalement, on a commencé par étudier la lumière. Donc, au début, on va dire en 1850, il y a Kirchhoff, donc un physicien chimiste, qui va comprendre qu'il y a trois types de rayonnement lumineux. Donc un objet incandescent, donc un objet chaud, va émettre ce qu'on appelle un spectre continu, donc qui va être mélangé de plusieurs couleurs, telles que le fait le soleil. Quand on va avoir un gaz chaud, on va avoir l'émission de seulement certaines couleurs qui vont être caractéristiques du gaz. Donc si on regarde de l'hydrogène ou de l'hélium, les rayonnements ne vont pas avoir exactement la même couleur. Et après, le fait d'avoir un objet chaud avec du gaz froid autour, ça va absorber certains rayonnements, et donc on va être capable d'avoir une information sur les objets. Donc quand le soleil émet sa lumière, en fait, on voit le soleil jaune dans le ciel, mais quand sa lumière va passer dans des gouttes d'eau qui va créer un arc-en-ciel, on va voir qu'il y a tout un spectre, différentes couleurs de l'arc-en-ciel. Et en fait, ces couleurs-là, elles sont caractéristiques du spectre électromagnétique. Donc ça, c'était en 1850, on va comprendre comment faire ça. Il va falloir attendre un tout petit peu, en fait, il va falloir attendre la fin des années 1800, où il y a le physicien Maxwell qui va comprendre que la lumière, en fait, c'est une vibration du champ électrique et magnétique. Donc l'espace est rempli de champs électriques et magnétiques. Et lorsque l'information va se transporter, ça va être une vibration de champ électromagnétique. Et en fonction de la longueur d'onde, donc de la distance entre deux sommets de cette onde, on va voir la lumière visible qu'on voit à notre œil. Donc ça, c'est la première chose qu'on va pouvoir faire. Mais quand on va s'écarter de cette région visible, quand on va aller vers des longueurs d'onde plus petites, on va tomber sur les rayons X, donc qu'on a tous expérimenté lorsqu'on passe une radio, les rayonnements gamma, donc qui vont avoir des origines nucléaires, donc ça c'est lorsqu'on va vers les basses longueurs d'onde, et lorsqu'on augmente la longueur d'onde en partant du spectre visible, on va tomber sur les micro-ondes donc, qu'on connaît chez nous, et les ondes radio. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est sur Terre, on a l'atmosphère, donc on est à ce manteau de gaz autour de nous. Ce manteau de gaz, il va arrêter une grosse partie des rayonnements gamma, des rayons X, donc heureusement pour nous, parce que sinon on ne serait pas là pour le dire. Une partie du spectre visible va aussi être absorbée par cette atmosphère, donc si on veut vraiment faire des mesures précises à un moment et qu'on ne veut pas être pollué par cette atmosphère, il va falloir aller faire des mesures en satellite, donc il va falloir s'extraire de notre atmosphère. Et par contre, on a quelque chose de génial, donc qui a permis l'avènement de la radio, c'est que l'atmosphère est transparente aux ondes radio. Donc un des bons domaines pour regarder le ciel depuis le sol, ça va être les ondes radio. Après, si on veut faire des observations dans d'autres domaines, on va voir que va falloir mettre nos dispositifs expérimentaux sur des satellites, et donc c'est ce qui va rendre un petit peu compliqué notre science.
Et quand on s'intéresse aux étoiles, par exemple, est-ce qu'aujourd'hui on a concrètement les moyens, quand on fait de la recherche, quand on est à Caen par exemple, de s'intéresser à ce qu'il y a plus loin que de l'atmosphère?
Oui, alors ça on va le faire parce qu'en fait on travaille en collaboration, donc le LPC Caen tout seul, c'est triste à dire, mais on ne pourrait pas faire grand-chose. Donc par exemple, si je prends deux de nos projets au sein du groupe Astroparticulés Multimessagers, on a le projet KM3Net, donc l'objectif c'est d'avoir un détecteur qui fait 1 km3 de volume au fond de la mer Méditerranée pour détecter des neutrinos en fait qui vont avoir une origine astronomique. Donc on va chercher à étudier des neutrinos qui vont provenir de noyaux actifs de galaxies extérieures à la nôtre. Et donc, pour ça, on va se mettre en collaboration avec plusieurs chercheurs, parce qu'on ne va pas monter un projet de plusieurs millions d'euros pour un seul chercheur. Et on a aussi donc un autre projet phare de notre groupe, qui est le projet LISA, où là, on prévoit en 2034 d'envoyer 3 satellites dans l'espace pour détecter des ondes gravitationnelles. Et donc, ça se fait seulement à partir du moment qu'on a un consortium de l'ordre de grandeur, c'est 1 millier de physiciens. Donc on devient une petite goutte dans ce travail, en fait. On ne peut pas faire ça tout seul. Et donc, c'est vraiment un travail collaboratif. Donc, c'est ce qui rend aussi le travail sympathique.
Alors, Philippe Labbé, quand on est grand public ou auditeur de Radio Phoenix, qu'on a un ciel dégagé, qu'est-ce que vous nous conseillez de regarder dans ce ciel ?
Ah, il y a beaucoup de choses à voir dans un ciel. Vous savez, les étoiles, bien entendu, qui se regroupent par constellation. Depuis la nuit des temps, on a essayé de faire un certain nombre de groupements de ces étoiles, de façon à mieux les repérer. Et lorsque, à la SNORA, nous avons la chance d'avoir des enfants pour leur montrer, finalement, ce qu'est la grande ours, ce qu'est l'étoile polaire, ce qu'ils ne connaissent en généralement pas ou pratiquement plus à l'heure actuelle, ce qui est tout à fait étonnant. L'étoile polaire, qui indique le Nord, bien entendu, n'est pas connue d'un grand nombre d'adolescents. C'est assez étonnant, hein. Alors, il y a donc toutes ces constellations que vous pouvez voir. Et puis, on a la chance éventuellement de pouvoir repérer une galaxie, et une seule, parce qu'elle est visible à l'œil nu, elle s'appelle Andromède, elle se trouve à un certain endroit du ciel, et lorsqu'on a la chance d'avoir un ciel pur, on repère une petite zone qui ressemble à un nuage assez peu lumineux, et qui est en fait une galaxie qui se trouve à une distance faramineuse. Et ça qui est très important, finalement, ce sont les distances qu'il y a entre les astres, si vous voulez. Et on ne se rend pas compte, en général, que ce que l'on observe dans le ciel, ce sont des distances qui sont, pour l'homme, quelque chose d'immense. Imaginez, alors on arrive à construire comme ça pour les enfants, pour leur montrer un petit peu ce qui se passe. Si vous représentez une maquette du système solaire et que vous placez, par exemple, la Terre à 1 mètre du Soleil. Eh bien, savez-vous où se trouve l'étoile la plus proche, qui est Proxima du Centaure ? Eh bien, elle se trouve au sud de Paris, à 260 km. Et entre deux, il n'y a rien du tout. Si, vous allez trouver quelques petites planètes, éventuellement quelques astéroïdes qui se promènent à gauche ou à droite, mais il n'y a rien d'autre, c'est du vide complet. Et ça, c'est tout à fait étonnant.
Et Gilbert Martel, justement, dans l'immensité de l'espace, comment nous, depuis la Terre, on arrive à retrouver à une constellation, comment on arrive à situer une constellation, un point dans le ciel ?
Alors, je dirais que c'est une question d'habitude aussi, c'est-à-dire à force d'observation, on arrive comme quand on habite une région et qu'on parcourt ses routes, on connaît les villages, les destinations, les passages. Donc c'est un petit peu la même chose, on a des cartes qui ont été... En fait, les cartes du ciel ont été élaborées il y a déjà assez longtemps, on va dire surtout à partir du XVIe siècle où on commence à graver, à publier l'imprimerie, publie des livres, des atlas du ciel. Mais la carte officielle des constellations, elle date du début, là aussi c'est très récent, du début du XXe siècle. C'est l'Union Astronomique Internationale, qui est un organisme qui regroupe les astronomes du monde entier, les grands organismes de recherche, etc., qui a délimité les constellations. On a 88 constellations officielles aujourd'hui, avec leurs limites, quelles étoiles, alors avec des cartes de plus en plus précises, parce qu'avec la photographie, qui a été une grande invention pour l'astronomie aussi au XIXe siècle, eh bien, on va de plus en plus loin dans la profondeur du ciel. C'est-à-dire que les étoiles visibles à l'œil nu, on dit généralement que pour les deux hémisphères de la Terre, c'est à peu près 6000 étoiles, pour quelqu'un qui a des yeux en bon état. Mais avec la photographie, évidemment, vous impressionnez aujourd'hui avec les CCD, les caméras CCD, vous avez des milliards d'étoiles. Quoi, sur Hubble, le satellite télescope spatial, fait des pauses de très longue durée sur plusieurs jours et obtient des résultats vraiment extraordinaires. Alors, savoir que ces étoiles, elles appartiennent à notre monde, notre galaxie, mais qu'au-delà, évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a d'autres galaxies, d'autres univers constitués de milliards d'étoiles. Et donc, c'est vrai que les cartes existent, depuis le début du XXe siècle, et on a aujourd'hui la possibilité, en observant régulièrement, de connaître quoi, les différentes étoiles et les constellations.
Et Philippe Labbé, on parlait tout à l'heure de la pollution lumineuse qui est un frein à l'observation du ciel, mais est-ce qu'il y a d'autres phénomènes qui empêchent d'observer le ciel ? Par exemple le soleil, tout simplement.
Ah, le soleil vous empêche de regarder le ciel, oui, si vous êtes ébloui par le soleil, bien entendu, oui, c'est exact. D'autres phénomènes ? Il y a évidemment l'atmosphère, de façon générale, les nuages, si vous voulez, là, c'est bien souvent le cas, hélas, en Normandie. Mais nous possédons à la SNORA un terrain d'observation qui se trouve sur la commune de Saint-Georges-d'Aunay, c'est-à-dire c'est du côté de Villers-Bocage, Aunay-sur-Odon, et qui a une bonne qualité de ciel, si vous voulez, parce qu'il n'y a pas de pollution lumineuse par la ville de Caen, d'une part, et même la ville de Villers-Bocage également. Donc on n'est pas du tout gêné, si vous voulez, par la diffusion lumineuse de ces centres. Mais d'autres éléments qui viendraient gêner, je ne vois pas vraiment, non, en particulier, ce qui pourrait... tout du moins en lumière visible.
J'allais vous poser la question justement des lieux où l'on peut échapper à la pollution lumineuse. Vous parlez donc de votre site qui est pas loin de Villers-Bocage. Est-ce que vous connaissez d'autres lieux en Normandie où on peut se rendre pour observer les étoiles ?
Dans l'Orne, c'est plus... Oui. Parce que toutes les régions très rurales, avec peu de grandes villes, voilà. Donc vous regardez une carte, si vous avez une grande ville, vous êtes sûr que vous allez avoir de la pollution lumineuse. En bord de mer, l'observation est aussi intéressante, parce que vous avez donc, en particulier la nuit, l'air est toujours perturbé, quoi, en fait. Et donc il faut des régions où l'atmosphère soit à peu près stable et sans grandes agglomérations.
Est-ce qu'en France, il y a des observatoires ? On parlait tout à l'heure de grands observatoires qu'il y a dans les Andes, par exemple, au Chili. Est-ce qu'en France, il y a des observatoires ?
Ben oui, il y en a un certain nombre. Par exemple, dans le sud de la France en particulier, disons l'observatoire de Nice, pour commencer, hein, qui est très intéressant.
Le pic du Midi, dans les Pyrénées ?
Oui, voilà. Les réunions qui se font, si vous voulez, l'été, et qui regroupent un certain nombre d'astronomes amateurs, en particulier à Florence, hein, il y a
dans le Gers,
des grands centres de ce type, finalement, qui offrent finalement une très bonne vue pour le ciel.
Et alors, à ce propos des associations qui étudient le ciel, sur le territoire cannais, bah, il y a Asnora, il y a aussi l'Astro Club de la Girafe.
Oui.
Quelles sont les activités, Philippe Labbé, de l'Asnora ?
Oui. Eh bien, écoutez, l'Asnora, c'est une association, une petite association qui a été créée par des universitaires il y a maintenant quelque chose comme 45 ans. Et ça a été créé sur Caen. Et donc, actuellement, il y a une trentaine de membres que l'on regroupe pour un certain nombre d'activités. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme activité ? Il y a des conférences qui ont lieu tous les 15 jours à peu près. Bon, avec évidemment ce qui s'est passé dernièrement avec la Covid, on a eu quelques soucis, on a ralenti le rythme. Il y a des ateliers de travail, certains de nos membres ont construit leur télescope eux-mêmes, par exemple, mais il y a des ateliers réguliers, de façon qu'on nous montre, par exemple, certains types de télescopes, et qui sont tout à fait étonnants, donc ça nous permet de voir différentes choses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a... la revue, une petite revue qu'on édite régulièrement et qui est distribuée à tous nos membres, qui s'intitule Capella, le nom d'une étoile. Hein. Et puis, il y a évidemment un certain nombre d'animations qui ont lieu soit auprès du grand public, soit auprès des enfants des écoles ou des centres aérés. Hein. Régulièrement, l'été, on essaye de faire des animations auprès de centres. Par exemple, demain et après-demain, nous nous occupons des ados de Caen. Bon, on espère que le ciel sera un peu plus clément que ce qui est prévu, parce que ça sera difficile de leur montrer grand-chose. Bon. L'année dernière, on avait fait une animation dans ce centre. Et c'était l'été, c'était au mois de juillet, on avait pu leur montrer toutes les planètes enfin un grand nombre de planètes qui étaient visibles à l'époque. Et ça a été une soirée qui leur a beaucoup plu.
Voilà. Vous restez avec nous, on va continuer la discussion autour de l'astronomie et de l'astrophysique après une petite pause musicale. Et on reste dans le thème, voici les Superman Lovers avec Starlight sur Radio Phoenix.
C'était Starlight de Superman Lovers sur Radio Phoenix. Vous êtes toujours dans C'est pas faux, dédié à l'astronomie et l'astrophysique.
Nous sommes toujours en studio avec Grégory Lehaut, chargé de recherche au groupe Astroparticules et Multimessagers du LPC de Caen, Philippe Labbé, président du club Asnora, et Gilbert Martel, membre et ex-président de l'association Asnora.
Alors Grégory Lehaut, vous travaillez au laboratoire de physique corpusculaire de Caen et vous menez des recherches notamment sur les ondes gravitationnelles. Alors les ondes gravitationnelles, c'est une histoire qui commence en 1916 avec Albert Einstein, ce physicien de renom qui prédit l'existence d'ondes gravitationnelles à travers sa théorie de la relativité générale. Cependant, ce n'est qu'en 2015, soit presque 100 ans plus tard, qu'on mesure les ondes. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une onde gravitationnelle et en quoi c'est important pour la recherche en astrophysique?
Alors déjà, c'était important pour la physique parce que c'était prédit par la théorie d'Albert Einstein. Donc, La première chose qu'a fait M. Einstein, c'est la relativité restreinte, avant de faire la relativité générale. Donc déjà, ça nous a bouleversés en tant que physiciens, parce que l'espace et le temps qui étaient absolus en physique jusqu'à cette date-là, donc en 1905, bah, étaient remis en cause. En fait, on s'est rendu compte que les longueurs et le temps allaient être relatifs à l'observateur en fonction de la vitesse de déplacement. Et donc, Albert Einstein était un petit peu plus loin. Après, il s'est posé la question comment, en fait, deux masses arrivent à savoir qu'elles doivent s'attirer ou à quel endroit elles sont, comment l'information voyage entre les deux. Et là, il s'est rendu compte, en fait, que bah, la masse allait déformer l'espace-temps, allait quelque part la courber, donc c'est un concept un petit peu abstrait. Et surtout, bah, quand on pousse le concept un peu plus loin, si deux étoiles orbitent, on a une sorte de déformation de l'espace-temps, donc on va avoir une sorte d'onde qui va se propager, donc comme une onde électromagnétique, c'est une vibration du champ électrique et du champ magnétique. Bah là, on va avoir une vibration de l'espace. Donc pour les détecter, bah, il nous a fallu 100 ans parce que c'était extrêmement difficile. Il faut savoir qu'actuellement, donc, on utilise des lasers. Donc on a deux lasers qui vont être dans deux directions différentes, qui vont mesurer grosso modo la distance, on va dire, suivant un axe X et un axe Y. Et ce qu'on va voir, c'est s'il y a des deux dimensions qui s'est contractée l'une par rapport à l'autre. Mais ce qu'on cherche, c'est grosso modo... Notre laser, il va faire un parcours, quand on a un interféromètre sur Terre, de l'ordre d'une centaine de kilomètres, et on va chercher une déviation de l'ordre de 1 centième, 1 millième de noyau d'atome. Donc on fait vraiment des mesures de précision qui sont au-delà de ce qui est imaginable. Quoi.
C'est-à-dire que cette déformation du temps, cette courbure, on ne va pas la ressentir, nous, en tant qu'être humain.
Non, on n'est pas sensible à notre échelle, sinon... Voilà, on aurait des vies bizarres en permanence. Donc, ce qui a été magique, donc en 2015, c'est qu'on a eu la première signature avec deux sites expérimentaux différents aux États-Unis. Donc, ça a été conduit les auteurs à avoir un prix Nobel pour ce travail. Moi, je suis impressionné en tant que physicien de savoir que des chercheurs ont presque passé plusieurs générations à creuser, à s'approcher avant d'avoir un signal visible. Et donc, en 2015, ils nous ont vraiment ouvert une nouvelle boîte d'observation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir maintenant étudier le ciel autrement. Et donc, ce qui a été magique aussi, donc 2015, première observation de la fusion de trous noirs, et on a eu un événement qui était encore plus magique que celui-ci, c'était en 2017, donc il s'appelle GW170817, donc on l'a observé le 17 août 2017. GW, c'est pour Gravitational Wave, donc pour dire que c'était une onde gravitationnelle. Donc on a vu la fusion de deux étoiles à neutrons, donc c'est des objets astrophysiques qu'on connaît d'après la théorie, on va dire pas bien, mais qu'on connaît quand même suffisamment. Et ce qui a été magique, c'est qu'on a vu l'onde gravitationnelle, et 1,7 secondes après, on a eu un flash gamma, donc des rayonnements électromagnétiques de très haute énergie, donc qui vont signer des interactions nucléaires. Ensuite, 10 heures après, à peu près, on a vu un signal dans la région du visible et dans les ondes radio. Et ce signal a duré pendant 35 heures après cette fusion de trous noirs. Donc on a un événement ponctuel qui est arrivé, donc qui nous a donné la génération d'une onde gravitationnelle. Et derrière, on a pu voir suivre un flash gamma, les signaux radio qui étaient attendus. Donc on est capable de suivre un peu la matière de cet événement, qui est un événement ponctuel. Donc c'est la fusion de trous noirs, ça n'arrive pas tout le temps. Et donc on a été capable de le suivre. Et donc l'avenir, entre guillemets... Moi, ce que j'aimerais qu'on soit capable de faire, c'est aussi de voir en plus les neutrinos. Parce que dans ce type de mécanisme, on s'attendrait à voir l'onde gravitationnelle, un flux de neutrinos, le flash gamma, et ainsi de suite. Et donc ça permettrait de contraindre les modélisations théoriques, parce qu'il faut savoir que quand on fait de l'astronomie, on n'a pas accès aux paramètres expérimentaux. C'est-à-dire la nature, on observe quelque chose de la nature, on n'a rien maîtrisé. On va faire des théories, et derrière, on va utiliser notre arsenal physique, essayer de décrire le phénomène et de vérifier que la signature correspond bien avec un phénomène qu'on a été capable de prédire. Et donc là, on va apporter des nouvelles contraintes quand on va être capable d'avoir tout ce flux de messagers les uns après les autres sur ces événements qui sont importants dans le cosmos pour nous.
Vous parlez des neutrinos, qui sont des particules constituantes de la matière. Est-ce que vous pouvez un peu définir ce que c'est ?
Oui, alors la matière est, on va dire, à premier ordre, est constitué d'électrons, de neutrons et de protons. Donc ça, c'est ce qui va constituer nos atomes et la matière ordinaire. Et il y a aussi le neutrino, donc, qui va intervenir dans certains processus nucléaires. Donc c'est une particule qui est, on pense, la plus nombreuse dans l'univers. C'est une des particules qui interagit le moins. Donc c'est extrêmement compliqué de la détecter. Donc par exemple, on a réussi, mais quand on a essayé de détecter les neutrinos solaires, donc il faut savoir que le Soleil nous envoie à peu près 1 milliard de neutrinos par seconde par centimètre carré. On a fait un détecteur qui faisait une 30 000 tonnes de gallium à l'époque pour détecter ces neutrinos solaires. On s'attendait à en détecter un par jour. On a fait la mesure, et là ça a été dramatique pour nous, parce qu'on a détecté seulement 60% de ce que prédisaient les théoriciens sur les neutrinos solaires. Donc là on s'est dit, il y a un souci, donc il y a eu un conflit entre les physiciens du neutrino qui détectaient les neutrinos, les physiciens qui faisaient les modèles solaires en se disant « non, c'est moi qui ai raison, non, c'est moi ». Il y a eu un petit conflit, et en fin de compte, dans nos expériences, on voyait seulement un seul type de neutrino, et on sait qu'il en existe trois types. On a refait les mêmes expériences en ayant un détecteur qui allait être sensible à toutes les saveurs de neutrinos, donc aux trois différents types de neutrinos. Et quand on prenait ça en compte, en fait, on a bien retrouvé le flux prédit par les astrophysiciens du Soleil. Et ce qu'on a découvert au passage, c'est que le neutrino était une particule qui nous échappait encore un petit peu parce qu'on a découvert un phénomène d'oscillation. Et donc ce phénomène d'oscillation a été récompensé en 2017 par un prix Nobel, ou en 2015 par un prix Nobel sur le... Voilà, on a commencé à faire l'astronomie avec les neutrinos solaires dans les années 90.
Ça peut paraître parfois un peu absurde, mais comment capter toutes ces données ?
Alors, donc nous, pour les neutrinos, ce qu'on va chercher, c'est les voir interagir. Donc on sait qu'ils vont interagir, par exemple, qu'ils peuvent être capturés quand ils sont à basse énergie, peuvent être capturés par un proton et émettre un neutron et un positron. Et donc on va mettre en place tout un dispositif expérimental pour être capable de signer, par exemple, la présence du neutron, la présence du positron. Et donc, bah, ça va être chercher une aiguille dans une botte de foin, oui, littéralement, parce que notre détecteur va avoir des milliers d'événements par seconde, et les événements qui nous intéressent, on va en sortir une dizaine par jour. Donc, il va vraiment falloir trier des téraoctets de données pour sortir...
Et en fait, ces détecteurs, c'est des grosses machines qui sont reliées à des ordinateurs, c'est ça ? On ne peut pas créer un neutrino comme ça, comme en chimie ou...
Non, non, okay. Là, on est toujours... on va toujours chercher à avoir un signal électronique pour pouvoir le faire traiter par un ordinateur après et traiter des grandes quantités de données, en fait.
Alors, Grégory Lehaut, en 1990, il y a eu un télescope qui a été lancé par la NASA et l'ESA pour observer le ciel. Et ce télescope, c'est le télescope Hubble, dont on a parlé un peu plus tôt, et qui va chercher à analyser des choses sans être dérangé par notre atmosphère. C'est ce que vous nous expliquez en première partie d'émission. Et il va ainsi fournir des images de meilleure qualité. Qu'est-ce que nous apprennent, en fait, ces télescopes comme Hubble sur l'astronomie et l'astrophysique ?
Alors déjà, le télescope Hubble, il y a quelque chose de remarquable. Donc, c'est un miroir de 2,4 mètres qui va permettre de concentrer la lumière et donc d'avoir des images assez précises. Donc, pour se donner une petite idée de la précision angulaire des images fournies par Hubble, vous imaginez que là, on serait capable d'ici de distinguer un homme à New York. Donc, un homme qui fait 2 mètres de haut, on est capable de le résoudre avec Hubble. Donc évidemment, on ne va pas être capable de zoomer sur des objets très proches, mais on va être capable de voir vraiment dans l'extrêmement lointain, en dehors de notre galaxie, les différents objets, les différentes étoiles. Et donc, on va mesurer, confirmer l'expansion de l'univers avec ce type de dispositif. Donc ça, c'était la première génération. Donc c'était en 1990. Cette année, à Noël, les astronomes ont été gâtés parce qu'on a envoyé James Webb, qui est le... télescope de nouvelle génération, et donc là, ce qu'on aimerait voir avec ce télescope, c'est entre guillemets voir la première étoile s'allumer au début de l'univers, enfin voilà, quelques millions d'années après le début de l'univers.
Alors si l'on revient sur le territoire cannais et qu'on se détache de ces télescopes, Gilbert Martel, vous nous avez parlé d'un musée à Douvres-la-Délivrande qui a une particularité en termes de recherche en astronomie, en astrophysique. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Alors, le musée lui-même, en fait, est un musée d'histoire qui est lié à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Des radars étaient installés à cet endroit-là par les Allemands pendant la guerre pour pouvoir annoncer l'arrivée d'avions ou de navires ennemis, donc sur le territoire français. Mais la particularité, c'est qu'une de ces antennes, qui est ce qu'on appelle un radar Würzburg, a été récupérée à Nancy, qui est le grand centre de radioastronomie en France, au centre de la France, dans le Cher, en Sologne. et a été ramené donc et installé à Douvres, où il a été remonté, etc., présenté aujourd'hui. Et cette antenne a servi tout de suite après la guerre, dans les années 50, donc avait été récupérée du matériel laissé par les Allemands, par les premiers radioastronomes français, menés par Yves Rocard, pour justement travailler sur les ondes radio qui arrivent de l'espace, pour la radioastronomie. Et donc, cette antenne a une histoire militaire, mais elle a aussi une histoire scientifique, voilà, avec la radioastronomie, d'où son intérêt.
Grégory Lehaut, justement, en parlant d'intérêt scientifique à travers des choses historiques, quelles grandes avancées ont été permises par l'astronomie et l'astrophysique ?
Les grandes avancées, déjà au tout début, quand on a commencé à comprendre un petit peu les cartes du ciel, ça nous a permis de naviguer, ça nous a permis d'explorer le monde, ça nous a permis d'avoir des notions temporelles. Grandes avancées comme ça, je suis désolé, je suis un peu sec sur les grandes avancées. Juste ce qu'on peut dire, c'est qu'on essaye toujours d'être à la pointe des technologies pour observer le ciel. Donc à la base, le physicien va, entre guillemets, fabriquer ses jouets. Et après, quelqu'un va lui trouver des utilités dans le grand public.
J'ai vu que, par exemple, dans l'actualité, début 2022, il y avait l'étoile la plus distante connue à ce jour, Herondale, qui avait été découverte, et HD1, la galaxie la plus distante de la Terre. Est-ce que ces découvertes, ça nous permet d'en apprendre un peu plus sur d'où vient l'univers ?
Oui, parce que tous ces objets qu'on va voir extrêmement loin, en fait, vont être très proche du début du Big Bang, ou en tout cas des premières étoiles. Et aujourd'hui, quand on regarde les différentes formes de galaxies qu'on a dans le ciel, on ne comprend pas forcément toujours l'évolution de ces objets. Donc d'être capable de les voir à différents instants, donc d'être capable de les voir dans le passé, va toujours nous apporter des nouvelles briques, des nouvelles contraintes pour essayer de comprendre cet univers qui est fascinant.
Alors, je voudrais ajouter quelque chose, justement, à propos de ces phénomènes. Le lancement à Noël dernier du James Webb, comme que vient de signaler Grégory, c'est une avancée extraordinaire, puisque c'est un appareil qui fonctionne essentiellement dans le domaine infrarouge, c'est-à-dire un certain domaine des ondes électromagnétiques, qui va nous permettre finalement de remonter dans le temps, puisque finalement en astronomie, plus vous regardez loin, plus vous remontez dans le temps. Et donc on espère effectivement retrouver des indications sur les toutes premières galaxies qui se sont formées grâce à ce télescope qui est actuellement en fonctionnement, en réglage pour 6 mois, et qui va probablement nous donner les premières photos et les premières analyses dès le mois de juillet prochain, quoi.
C'est vrai que parfois on dit qu'on regarde des étoiles qui sont mortes. Comment c'est possible, en fait ?
Ah oui, parce que la lumière met un certain temps à nous parvenir. Elle va très vite, à 300 km par seconde, ou à peu près, mais ça demande quand même un certain temps. Quand on sait, par exemple, que la lumière qui provient de la Lune met un peu plus d'une seconde, la lumière qui vient du Soleil, c'est plutôt 8 minutes. Mais si vous prenez, la galaxie d'Andromède qu'on évoquait tout à l'heure, c'est déjà 2 milliards et demi
d'années-lumière. Alors ça peut être un petit exercice pour vos auditeurs amusant, on va dire, en mathématiques, de calculer par exemple une distance. C'est-à-dire, vous savez que la lumière se propage à 300 000 km par seconde. Chaque seconde, elle parcourt 300 000 km à peu près. Et cette galaxie était située à 2 milliards et demi d'années-lumière. Donc, combien de secondes vous avez dans une année, et ensuite dans 2 milliards et demi d'années-lumière, pour savoir quelle est la distance.
Des chiffres astronomiques avec 10 puissance 13, c'est-à-dire un 1 et 13 zéros par derrière, si vous voulez, pour une année-lumière. Donc finalement, ça fait des distances considérables, considérables.
On parle beaucoup de la recherche dans les laboratoires, mais est-ce que le milieu associatif ou des passionnés, ils permettent d'aider la recherche avec vos observations notamment ?
Oui, alors il y a certains domaines, effectivement, où c'est le cas, ben, Grégory Le Haut, finalement, qui a fait ses expériences, finalement, avec les ondes radio, arrive finalement à aider, d'une certaine façon, le domaine de recherche professionnelle, si vous voulez. D'autres domaines existent également. C'est, par exemple, il existe en France un système qui permet de repérer les astéroïdes. Les astéroïdes, ce sont des cailloux, des morceaux de glace qui finalement tombent parfois sur la Terre. Et il est important de savoir quelles sont leurs dimensions, d'abord, parce que ça peut être dangereux. Et d'autre part, ça peut être très intéressant de récupérer des éléments de ces astéroïdes pour faire des études scientifiques. Parce que ces astéroïdes, en général, datent de la formation de la Terre. Et se promènent dans... Et puis un beau jour, tombent sur la planète, et par exemple sur la Terre. Donc on essaye de les repérer. Il y a des caméras qui enregistrent les mouvements de ces astéroïdes, donc les phénomènes lumineux qui peuvent exister dans le ciel. Et si on effectue donc le repère des trajectoires, on arrive ainsi à savoir finalement à quel endroit elles sont susceptibles d'être tombées. Ensuite, on fait des recherches sur place pour retrouver donc quelques éléments. Donc ça, c'est du domaine finalement possible pour les amateurs.
Il y a parfois des subtilités dans la recherche en astrophysique qu'on ne saisit pas toujours quand on n'est pas spécialiste, Grégory Le Haut. Est-ce que vous partagez ces recherches ? Est-ce que c'est aussi dans votre intérêt que le grand public puisse bénéficier de toutes ces recherches ?
Ah bah c'est plus que dans mon intérêt. En tant que chercheur et en tant que fonctionnaire, pour moi, c'est un devoir d'avoir un retour vers le grand public parce qu'on n'est pas sponsorisé, mais on est financé par de l'argent public. Donc pour ça, on se doit d'avoir des retours. Donc dans ce cadre-là, moi j'avais développé un dispositif qui permet de faire de la radioastronomie, justement, donc de voir l'hydrogène de la galaxie. Donc c'est une petite expérience qui coûte une centaine d'euros. Et à ce titre, je vais dans des lycées, leur mettre à disposition pour justement leur apprendre que l'astronomie, c'est pas seulement avec un télescope ou une lunette, mais ça peut aussi se faire dans l'invisible parce qu'on a des messages qui sont différents. Et l'avantage, c'est qu'on peut faire ces mesures en plein jour, on n'est pas perturbé par le soleil. Donc ça permet d'avoir une approche, de familiariser les étudiants en fait, avec l'astronomie et les ondes radio aussi. Donc pour moi, ce qui est important, en fait, c'est de vraiment... L'astronomie, c'est bien, mais derrière moi, mon cheval de bataille, c'est la physique, en fait. C'est ma discipline, parce que ça touche tellement tout nos domaines d'aujourd'hui que je trouve que c'est important que les jeunes se familiarisent avec la physique.
Vous utilisez le terme familiariser et non pas vulgariser qu'on entend beaucoup en ce moment. Il y a une
Pour moi, familiariser, ça veut dire qu'on vit plus avec. C'est pas quelque chose qu'on vient vous exposer, mais vous avez des notions, vous commencez à être familier. J'ai presque envie de dire, pour moi, ça a le côté aussi familial. Enfin, je veux dire, ça fait partie de nous, quoi.
Ces notions de vulgarisation, de familiarisation, est-ce que c'est aussi quelque chose qui vous intéresse à la SNORA, d'aller rencontrer des publics, des jeunes publics ?
Oui, absolument. Et surtout les jeunes publics, finalement. Et c'est un plaisir, souvent, lorsqu'il y a des animations pour grand public, organisées par exemple par la ville de Caen, si vous voulez. Hein. Rallumons les étoiles, bon, c'est une soirée qui est très importante. Et il y a parfois des enfants très, très intéressés par ce qu'on leur raconte, finalement, et qu'on leur montre dans le ciel. Et le grand plaisir qu'on peut avoir, nous, c'est que lorsqu'on a des télescopes et que les enfants montent sur des petits tabourets pour regarder dans l'oculaire, et tout d'un coup, ils vous disent « Oh, la Lune !» Et ils s'aperçoivent finalement qu'ils voient la Lune en gros plan, ce qu'ils n'avaient jamais vu auparavant, bien entendu.
Et ça fait naître des vocations de chercheurs ?
Ça peut donner lieu, effectivement, à des vocations. Il faut qu'ils fassent un petit peu de travail auparavant, tout de même, étudier les connaissances de base.
Eh bien, merci Gilbert Martel, Philippe Labbé et Grégory Le Haut d'avoir accepté l'invitation de Radio Phoenix pour parler de la recherche en astronomie et en astrophysique.
Bonne journée à vous trois.
Merci.
Merci.
Alors tout de suite, place à l'agenda scientifique de la semaine. Ce week-end auront lieu les 18e rencontres astronomiques du Calvados. Ce temps fort pour les fans d'astronomie ou les simples curieux est co-organisé par le club Asnora et l'Astroclub de la Girafe.
Au programme, exposition de photos et matériel, rencontres et échanges, observations du ciel en journée et du ciel dès la nuit tombée. Pour participer à ce temps fort de l'astronomie, rendez-vous à la chapelle Saint-Clair de Banneville-sur-Ajon, samedi 23 avril dès 14h. L'entrée est libre, gratuite et sans réservation.
Dotés d'une énergie phénoménale, les trous noirs font partie des entités cosmiques les plus énigmatiques. Engins de destruction apocalyptique, ils font disparaître tout ce qui passe à leur portée, particules, poussières, gaz, planètes et même étoiles géantes. La science dispose aujourd'hui de précieuses données pour mieux appréhender ces entités présentes dans chaque galaxie, y compris la nôtre. Alors partez à la découverte de l'anatomie des trous noirs, ces ogres du cosmos dans le documentaire Mystérieux trous noirs. C'est en deux épisodes et c'est disponible sur la chaîne YouTube d'Arte.
À Caen, le château de Guillaume le Conquérant vous ouvre ses portes lors de visites insolites. L'occasion de faire un bond au XIe siècle pour découvrir les mystères de la pierre blonde qui orne ce château, mais aussi découvrir le quotidien des femmes et des maîtres carriers qui ont bâti ce château de renom. Ces visites d'une heure et demie sur réservation ont lieu du 18 avril au 28 mai et il faut compter 15€ pour une entrée adulte. Rendez-vous sur le site internet epochetour.fr pour plus d'informations.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
C'est pas faux sur l'astronomie et l'astrophysique, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter les précédentes émissions en podcast sur phoenix.fm.
D'ici un peu moins de 10 minutes à 13h, vous retrouverez Edgar pour la Méridienne. Merci à Alan qui a réalisé cette émission. On se retrouve la semaine prochaine sur Radio Phoenix.